partir de 18h, les femmes sont bannies pour 2 jours. C'est une question de vie ou de mort pour les femmes. En fait, la cité est aux mains des hommes. Cette cérémonie est ouverte par les femmes. Mais nous ne savons pas, nous n'avons jamais su, aucune femme ne sait ce qui se passe dans les rues. Donc en fait, je ne sais pas. Je sais juste que je suis interdite et que si je mets pied dehors, je risque ma vie.
Orisha et Vodou, au bout des chemins de terre rouge. Un documentaire réalisé par Adéola Desnoyers. Les vacances au bled, ça commence toujours comme ça. 6 heures de vol direction Cotonou, 2 valises de 23 kilos remplies à ras-bord pour la famille, pas mal d'excitation, et enfin... le Bénin. C'est le pays de ma mère. 11 millions d'habitants, coincés entre le Nigeria, l'océan Atlantique et le Togo. Il y a longtemps, ça s'appelait le royaume du Dahomey, mais maintenant, c'est la République du Bénin. Ma grand-mère et mes oncles y vivent, et c'est eux que je viens voir, presque tous les étés. Ici, il y a des safaris et quelques jolies plages à touristes, mais il y a surtout de la brousse, avec des routes de terre rouge et au bout, des villages comme celui de mon grand-père. Là-bas, les traditions ont survécu à tout. Les guerres, la colonisation, l'indépendance. Et pour parler de ces traditions, les Occidentaux ont un mot fourre-tout, le vaudou. Sauf que quand on dit vaudou, ça n'évoque rien d'autre que des gros clichés. Des sacrifices de poulets, des corps noirs en transe, ou des poupées qui servent à jeter des sorts, comme dans un documentaire de la BBC.
Here on Ancient Mysteries, journey to the jungles of Africa for a rare and unforgettable glimpse of forbidden voodoo rituals. Witness initiates experiencing the mystical, terrifying moment of possession by voodoo gods.
Bref, le continent africain fantasmé. Alors cette fois-ci, quand j'ai pris l'avion pour aller voir ma famille, j'ai emporté mon micro. Je l'ai baladé de Cotonou à Kétou pour entendre parler de ces cultes millénaires. Parce qu'ici, on raconte qu'il y a des masques qui chantent et des ancêtres qui reviennent sur la terre. Et j'ai laissé les Béninois en parler, parce qu'après tout, ce sont eux les mieux placés. À commencer par mon oncle.
Bon, il faut reconnaître, et c'est ce que je disais, c'est d'abord les pratiques, c'est d'abord le mode de vie des populations. C'est avant d'être peut-être une philosophie, c'est avant d'être une religion au sens occidental du terme.
Jean-Michel Abimbola, ancien ministre de la Culture.
Il faut reconnaître que le Bénin est une terre de tolérance religieuse. Le Béninois qui va... à la messe ou au culte chrétien le matin, il n'est pas surprenant de le retrouver, disons, au culte endogène en pleine nuit. Le fait d'avoir un enfant, un nouveau-né, et de faire des cérémonies religieuses, c'est tout à fait naturel. C'est comme une façon d'accepter, disons, cet enfant dans la communauté des hommes. Donc ce n'est pas venu en contradiction avec ce que certains Béninois appellent les religions importées.
C'est vrai que dans les rues de Cotonou, on entend souvent des muezzines ou les cloches d'une église sonner. Mais les cultes traditionnels sont toujours présents. C'est juste qu'ils sont un peu plus discrets. L'ethnie majoritaire au Bénin, celle des Fon, a gardé son culte vaudou. Et les Yoruba, l'ethnie de ma famille, continue son culte des Orisha, même si beaucoup sont devenus catholiques ou musulmans. On appelle ça le syncrétisme. Plutôt que de choisir entre deux doctrines religieuses, on les combine, comme ça. 2 fois plus de résultats.
Ce qui est important chez le Béninois, parce que je n'ai pas la prétention de parler d'Afrique, mais il me semble que il en est de même dans plusieurs pays d'Afrique, c'est que l'Africain estime que sa destinée, son destin, sa vie est entre les mains d'un être supérieur et qui a presque une prédestination. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que quand on Vous verrez que facilement, dans toutes nos expressions, nous parlons facilement de « si Dieu le veut ». Ah, c'est l'œuvre de Dieu. Ah, c'est la volonté de Dieu. C'est « bon, qu'est-ce qu'on peut y faire ?» Donc, c'est parce que l'Africain, c'est pas seulement qu'il, qu'il est, il n'est pas combatif, mais il estime qu'il y a des entités, on va appeler ça comme ça, qui sont supérieures à l'homme. Et que ces entités-là, ces spiritualités-là, ces ancêtres-là, ces esprits-là, ils ont une influence sur la vie de l'humain, sur la vie de l'individu. Et du coup, ils vouent un culte, disons, à ces esprits. De façon plus précise, dans la culture Yoruba, dans la culture Yoruba et dans la culture Nago, on voue un culte aux ancêtres plus qu'aux esprits, aux fétiches. On estime chez nous, vous savez, quand vous avez un parent qui décède et qu'on enterre le parent, votre père ou votre mère quelque part, vous avez l'obligation de construire votre domicile sur la tombe de votre parent. Et on estime que c'est les ancêtres qui sont l'esprit, c'est les ancêtres qui sont Dieu. Et on estime que l'esprit des ancêtres, cet esprit est beaucoup plus fort que l'esprit qu'on pourrait appeler un esprit divin, au sens de plusieurs dieux. Donc c'est pour dire que l'Africain est persuadé qu'il est, que l'homme, évidemment, est de chair, de sang, d'os, mais également, disons, d'esprit, et essentiellement d'esprit. Et c'est pour ça que la plupart, d'ailleurs, de nos guérisseurs traditionnels font appel aux esprits pour pouvoir guérir des maladies physiques, réelles, palpable. Donc c'est qu'on estime que c'est par l'esprit, que c'est par les ancêtres qu'on peut effectivement communiquer avec l'humain.
Donc on dit foro, foro, foro.
Là,
foro, foro,
c'est
foro,
ma grand-mère.
Et Teojeko Biriwo Bale foro, foro.
Elle chante une musique yoruba qui vient de chez elle, de Ouida.
Voilà.
C'est la ville des cultes traditionnels par excellence. Là-bas. Sa famille est pas mal connue. Léa Lapini ont un couvent d'initiation et participe au culte des ancêtres, des revenants.
Parce qu'on amène les trucs aux revenants, on amène...
Ça fait plusieurs jours que j'insiste pour l'enregistrer et elle a enfin accepté de me raconter une très vieille histoire qui explique comment tout a commencé.
C'est une histoire, l'origine de mon ancêtre qui est venu d'Oyo, Oyo au Nigeria. C'est un prince. Donc, il s'appelle Edun Okoronsho, la mort royale. Donc, l'ancêtre de mon papa a eu une prise de bec avec ses frères à Oyo. Donc, il a quitté. Il a quitté Oyo. Et il est spécialiste dans les herbes, les médicaments traditionnels. Et je ne peux pas dire qu'il est spécialiste, il est né dans le culte du revenant. Bon, arrivé maintenant chez le roi, arrivé à Bomé, il est arrivé là, et la population est partie dire au roi qu'il y a un Yoruba, il y a un Yoruba qui est venu et qui dit qu'il ressuscite les morts. Le roi dit, tiens, bon, d'accord, je viens, je vais voir ce que c'est. Donc, le roi est arrivé sur la place. Le roi est assis là et a dit, mon cher, paraît-il que tu ressuscites les morts. Si tu ne fais pas ça, ici, tout de suite, devant moi, je te tranche la gorge. L'aïeul a dit, bon, d'accord, ok. Donnez-moi ce qu'il faut. Vous me donnez une natte, vous me donnez quelques pieux, je vais faire un enclos, et puis c'est tout. Donc, l'aïeul a prononcé ses incantations. Et c'est sous le roi, sous le siège du roi, que le revenant est sorti. Quand le roi a vu ça, le roi a dit, ah, celui-là, il doit être fort. Donc, je
à ce stade-là, vous vous demandez sûrement à quoi ça ressemble ce culte des revenants. Chez les Yoruba, on appelle ça les Egun.
Les Egun, chez nous, ce n'est pas du fétiche. C'est les personnes, nos parents qui reviennent dans la vie, parce que nous, on croit en l'au-delà avant que le christianisme ne croie. Nous croyons que les morts ne sont pas morts. Les morts sont avec nous. Quand les morts meurent, ils sont toujours là, avec nous.
Parfois, ces revenants viennent nous rendre visite. Le plus souvent, c'est pour un enterrement. Aujourd'hui, c'est jour de cérémonie à Ouida. La foule s'est amassée devant le couvent pour voir le spectacle. Tout le monde attend que les ancêtres sortent. Finalement, ce sont les tambours qui donnent le top départ. Les portes s'ouvrent et le premier égout fait son apparition. Il est couvert d'un masque de coquillage et de plusieurs couches de tissu coloré et scintillant. On ne voit ni ses mains, ni ses pieds, ni son visage. C'est lui qui parle sous les pagnes. D'abord, il adresse quelques bénédictions à la foule avant de se mettre à danser. Celui-là, tout le monde l'appelle le sans-frein, parce qu'il a l'habitude de poursuivre les gens pour leur faire peur. D'autres revenants arrivent au compte-gouttes dans la cour. Il y en a des calmes, des turbulents. C'est un défilé où chacun vient faire son discours et danser. Autour des égouts, il y a des initiés au culte. Ce sont les seuls à pouvoir les toucher, avec des bâtons sacrés. À part eux, tout le monde a interdiction de s'en approcher. On dit que s'ils vous touchent, ils vous emportent avec eux chez les morts. Passé par Ouida, on prend la route pour Kétou. C'est le village de mon grand-père, juste à côté du Nigeria. C'est un passage obligé quand on vient au Bénin, parce que c'est ici qu'il est enterré. Ici, ceux qui représentent le pouvoir traditionnel ont beaucoup d'influence. La règle, c'est de venir les saluer dès qu'on arrive, à commencer par la reine de Kétou, en Yoruba. Ça se dit Yalodé. Ce matin, on est sept dans son salon. Ma mère et mon père, ma tante et ma cousine, ma grand-mère et Aladji Matinou, un ami de la famille qui vit ici. La grosse voix, c'est lui. Il explique que je suis journaliste et que c'est pour ça que j'ai posé un micro sur la table. La reine a l'air contente de nous voir. Elle connaît bien ma famille. Quand mon grand-père est mort, elle a même composé une chanson pour lui. Dans la pièce, il n'y a que ma cousine et moi qui ne connaissons pas les paroles. C'est la première fois que la reine accepte d'être enregistrée. Comme je ne parle pas Yoruba, Aladji Matinou pose les questions à ma place. À Kétou, la reine a autant de pouvoir qu'un homme politique, voire plus. C'est elle qu'on vient voir quand il y a une dispute entre époux, entre amis, entre voisins aussi. Et tout le monde est obligé d'accepter son verdict. En plus de ça, elle a un rôle primordial dans une des cérémonies les plus secrètes de la région. Celle du Oro, une divinité qui vit dans la forêt, juste à côté du village. Il n'y a que les initiés au culte qui peuvent y assister. Et bien sûr, personne n'a le droit d'en parler. La cérémonie est interdite aux femmes, mais ce sont elles qui lancent les festivités, avant qu'il ne fasse nuit. Pendant quelques minutes, c'est la reine qui mène la danse et les prières. Ensuite, pour 2 jours, plus aucune femme n'a le droit de mettre les pieds dehors. Depuis que je suis petite, j'entends plein d'histoires sur cette cérémonie. Des histoires comme celle de ma mère.
En fait, comme d'habitude, hein, on a toujours des emplois du temps élastiques. Donc on avait passé quelques jours à Kétou, on était censé partir avant la sortie du Oro. Donc on a dû traîner et on s'est retrouvé à mi-chemin, peut-être à 15 ou 10 km de Kétou, entre Kétou et Pobé. C'est à peu de choses près. Faut imaginer une route pas éclairée, la brousse de chaque côté, des fossés de chaque côté, et de temps en temps des petites paillotes. Et d'un seul, hein, on s'est retrouvé avec le chauffeur pris de tremblement, des gens qui sortent de chaque côté de la brousse pour demander s'il y a des femmes, qu'il fallait s'arrêter tout de suite, qu'il fallait nous couvrir, il faut vérifier. Donc, on s'est retrouvé avec, on était dans des minivans de 12 places, chose près, et on s'est retrouvé avec des rideaux, en fait, autour de ces minivans, un peu comme les minivans qu'on retrouve dans le bois de Boulogne, je dirais. C'est vraiment le même genre. Donc, on avait tapissé toutes les fenêtres de pagne. Et nous, les femmes, on était recouvertes de pagne. Alors, évidemment, Irène, ta grand-mère, prend la chose à la rigolade. Hein. Elle dit, mais c'est n'importe quoi. Mais moi, je veux voir ce qui se passe et tout. Et nous, toutes, ma mère, mes sœurs, moi, totalement affolées en se disant, mon Dieu, il ne faut surtout pas. Qu'est-ce qui va se passer? Et on a vraiment eu peur, mais en même temps, ça a été une soirée excellente, sans électricité, sans phare, sans rien, donc avec des fous rires et en même temps des tremblements, parce qu'on se disait, c'est vrai, c'est pas vrai, oh, maintenant on est grande, maintenant on est européenne, et en fait, pas du tout, on était totalement imbriqués dans cette histoire-là, et on paniquait, mais on gardait quand même la face, parce qu'on était quand même féministes.
Tous ces cultes et ces rituels yoruba sont organisés autour d'une seule chose, le fa. C'est un système de divination sacré, un peu comme de la géomancie. Il est utilisé à chaque fois qu'il faut prendre une décision importante. Par exemple, on a recours au fa pour choisir la prochaine reine, ou pour s'assurer d'un bon mariage. Il n'y a que les prêtres du fa qui peuvent pratiquer l'art de la divination. À Kétou, on l'appelle le hache au sein. C'est une sorte d'oracle qui habite dans une petite maison, au bord de la route principale du village. Quand on entre dans la case, il n'y a que 2 bancs, son siège et des statuettes accrochées au mur. Lui aussi, il a accepté d'être enregistré. Il était la fois le sorcier et le sortilège, le guérisseur et le remède. Son père était oracle, et son grand-père aussi. Maintenant, il dit que c'est son tour. Quand les gens ne savent plus dans quelle direction aller, il leur montre le chemin. Et quand le fa veut parler, c'est à lui seul qu'il s'adresse. Avant qu'on parte, il décide d'invoquer le fétiche de la famille.
Les ancêtres, ils vont mettre ça par terre maintenant, ils vont vous saluer tous. Vous allez voir maintenant. Là, vous saluez vous tous.
Son assistant sort et revient avec un tabouret. Il installe une des statuettes dessus. Et là, elle se met à parler. Une petite voix aiguë en sort et engage une conversation avec l'oracle. J'en ai fait le tour avec mon micro. Impossible de trouver l'astuce, s'il y en a une. De toute façon, on dit que ceux qui ne croient pas à tout ça le jour finissent toujours par y croire la nuit. Toutes ces légendes et ces coutumes sont des secrets bien gardés. Mais de génération en génération, les Béninois s'en désintéressent. Beaucoup préfèrent la modernité des grandes villes aux traditions des petits villages. Alors les initiés se font de plus en plus rares, même si certains choisissent encore le chemin du couvent. à Kétou. Les adeptes de la divinité Atinga en ont encore un. C'est une grande maison de terre cuite, dans la cour centrale. Il y a des tambours et une cinquantaine de femmes, toutes initiées.
Il y a des choses bizarres là-bas.
Pour entrer dans la pièce principale, il faut passer la porte en marchant à l'envers. Là, il y a un autel et devant, il faut s'agenouiller. Pas le choix. Dans le fond de la pièce, j'entends ma grand-mère réciter un « Je vous salue Marie ». Elle est catholique, et pour elle, tout ça, c'est de la sorcellerie. En sortant, elle nous a tous fait nous laver les mains à l'eau bénite. Et dehors, tout le couvent est déjà en place pour la prière.
Oui, c'est une religion, c'est une culture. C'est comme si on me demandait pourquoi est-ce que le Français continue de boire du vin. Je ne sais pas répondre à ça. C'est leur culture, ils sont nés dedans. Ils ont vu faire comme ça. Ils apprécient, le vin est très nocif, mais les Français apprécient le côté, disons, agréable. Ça soigne même le cœur, il paraît. Bon. Donc, ceux qui s'adonnent à leur pratique voient que par ces pratiques-là, on soigne des maladies. Par ces pratiques-là, on anticipe l'avenir. Par ces pratiques-là, on régule la société. Donc c'est leur mode de vie.
C'est un peu compliqué, en fait. Pour moi, c'est compliqué parce que j'ai beaucoup plus vécu, du coup, en France qu'à Kétou. Donc pour moi, je le vois avec un regard un peu plus d'enfant et moitié enfant, moitié européen, moitié j'y crois, moitié n'y crois pas. Et de mon point de vue, c'est que oui, vous voyez ça de manière un peu folklorique, mais une fois que vous êtes plongé dedans, vous vous grattez quand même un peu la tête, hein, pour savoir si c'est du lard ou du cochon.
Flé, devons-nous à bailler un mot, père Majeyoué.
Njeybe.
On a beau.
Ago. Ago, c'est, ago, c'est, ago, c'est, ago, c'est.
C'est Orisha et Vaudou, au bout des chemins de terre rouge. Un documentaire réalisé par Adéola Desnoyers. Les musiques sont du Bénin International Musical, de Blo et de Sophie Edia. À très vite.